Alors, nouvelle de retour aux amateurs de sport week-end. Toujours 1-0, le Portugal face à l'Allemagne sur le but de Cristiano Ronaldo à la 34e minute de jeu. La France et la Hongrie ce matin ont fait un match nul 1-1. Défaite de Félix Auger-Aliassime en Allemagne. On rappelle aussi la pole position de Max Verstappen en Formule 1. C'est maintenant le moment de parler sport business avec Ray Lalonde. Salut Ray!
Salut Jérémy.
Ray, on est dans une période extrêmement occupée dans le monde du sport, là, en tout cas, notamment de notre côté, avec le hockey, les séries canadiennes, l'Euro et tout ça. Sauf qu'on arrive aussi dans une période au Québec où, normalement, on est sur le point de mettre, comme on dit, mettre le piton à off dans plusieurs réseaux, par exemple, de télévision, où on a pris l'habitude au Québec depuis, je te dirais, à peu près 20-25 ans, de dire « l'été, on offre moins de programmation, on fait moins d'émissions, tout le monde tombe en vacances et tout ça. » Sauf que là, on se fait jouer des tours, parce que le sport continue, il y a de l'action, et il n'y a pas vraiment moyen de le suivre comme on le ferait à l'habitude.
T'as raison, Jérémy. Je pense que c'est un peu un effet culturel au Québec. On arrive à la fin de l'année, l'école se termine, la Saint-Jean-Baptiste arrive, puis là, on pause. C'est très européen, là, la pause de 5, 6, 7 semaines l'été. Mm-hmm. Ça veut pas dire que les gens sont en vacances tout ce temps-là, mais ils ont, si on veut, une mentalité, une espèce d'esprit où on a déconnecté de l'intensité de la saison de sport. Dans le cas du Québec, ce sont les Canadiens qui dirigent un peu le paysage sportif, particulièrement cette année, bien sûr, parce que ils connaissent beaucoup de succès en fin de saison. Bon, mais contrairement à des marchés traditionnels américains, où la culture de sport, c'est littéralement 12 mois par année, cyclique, saisonnier. On passe d'un sport à l'autre. Littéralement, quand une saison se termine, on passe au suivant.
Oui.
On a plusieurs équipes favorites dans chacune des villes, Jérémy, parce que on a plusieurs équipes dans les villes.
Oui.
C'est le cas. Mais on en a deux autres à Montréal, les Alouettes puis le CF Montréal, qui jouent l'été, qui, dans ce cas-ci, les Alouettes vont reprendre leurs activités. Oui. Alors, quand je regarde un peu le paysage, puis je me dis, qu'est-ce qui se passe pour qu'on dirait qu'on... On est toujours dans un mode, là, soit budgétaire, soit qu'on est moins conscient qu'il y a autant d'événements sportifs, de contenus riches, de haute qualité, qui se déroulent l'été, mais on n'y accorde pas la même attention.
Ou on considère tout simplement pas nos deux équipes qui évoluent durant l'été. Parce que je te dirais que ce phénomène-là s'est concrétisé officiellement quand les expos sont partis. Ça avait déjà commencé, mais ça s'est confirmé après. Là.
C'est vrai que les expos, parce que c'était une équipe majeure qui évoluait durant l'été, puis là, on faisait justement, nous, le changement, la transition du hockey au baseball. C'est vrai. Mais je regarde le sport aujourd'hui en général, Jérémy, puis toutes les ligues sportives ont impérativement besoin d'exister 12 mois par année. Tu ne peux pas prendre de pause.
C'est vrai.
Même si tu n'as pas le produit sur le terrain de jeu, tu dois être actif. Pense à la NFL. La saison se termine, mettons, au début février avec le Super Bowl. Littéralement, là, ils sautent dans ce qu'on appelle le combine.
Ouais.
Cette évaluation de joueurs qui a lieu à Indianapolis à chaque année, qui a lieu à la fin février, qui permet d'évaluer rapidement ton talent disponible pour le prochain repêchage. Le prochain repêchage, c'est un autre événement qui a lieu à la fin avril, qui domine l'actualité sportive américaine.
Elle tourne tout le temps, là, dans le fond.
Exact.
Là.
Et ce que je veux dire, après ça, t'as les camps d'été, t'as les camps d'entraînement au mois de juillet, la saison préliminaire qui commence en août, puis le début de la saison après la fête du travail. Jérémy, ça roule 12 mois par année.
C'est exact. C'est seulement au Québec qu'on voit ça. On peut juste regarder du côté de nos amis de Toronto à Sportsnet, là, et ça roule tout l'été. Là. Les Blue Jays envoient let's go. Puis,
fait que moi, ce que je trouve, Jérémy, c'est qu'on dirait que du côté de la priorité sportive dans le contenu, dans les décideurs de contenu, on dirait que l'été, c'est comme moins important.
Ouais.
On va se revoir au mois d'août.
C'est
ou
ça.
Fin août.
C'est ça.
Puis pendant ce temps-là, cet été, les Jeux Olympiques, c'est l'Euro, t'as Wimbledon, tu sais, t'as la saison d'été de tennis, tu vas avoir le US Open au mois d'août. Non, mais sérieusement, il y a tellement de choses qui se... Et je parle pas du baseball, du football, puis du soccer MLS habituel.
Ouais.
Jérémy, ça ralentit pas le sport l'été.
Non.
Moi, ce que je pense, puis je souhaiterais, c'est qu'on accorde autant d'importance aux autres activités d'été, quelles qu'elles soient, pour continuer à remplir le menu québécois. Parce qu'ailleurs, ça existe. Oui, c'est absolument. Vraiment uniquement au Québec.
Bon, parlons un petit peu de la NBA, puisqu'on a des formations qu'on n'a pas l'habitude de voir qui rentrent dans le carré d'as, ou en tout cas pas loin. T'sais, on peut penser aux Nets, anciennement du New Jersey, qui sont maintenant à Brooklyn, les Suns de Phoenix, les Clippers de Los Angeles, qui ont toujours été derrière les Lakers. Est-ce que c'est un... C'est-à-dire, est-ce que c'est un coup de chance cette année de voir autant d'équipes qu'on n'a pas l'habitude de voir là, ou est-ce que vraiment la NBA est maintenant faite ainsi, où tout le monde a une réelle chance, et qu'est-ce que ça fait pour la business de la NBA?
Ben, je pense que c'est rafraîchissant pour la business. Je pense qu'il y a beaucoup de parité, Jérémy. C'est une bonne chose de voir les Lakers et les Celtics sortis. Ben, rien contre ces équipes-là, mais ouais. Parce que c'est, je trouve ça rafraîchissant de voir arriver les Suns de Phoenix, les Nets de Brooklyn, les 76ers, par exemple, et les Hawks d'Atlanta. Aujourd'hui, t'as le septième match, Milwaukee contre les Nets de Brooklyn. T'sais, ça fait longtemps là, qu'on s'est pas dit qu'il y avait un enjeu entre ces deux formations-là. Les Suns de Phoenix, c'est une équipe de bas de classement depuis 15-20 ans.
Oui.
Là, ils sont en finale de conférence en attente du gagnant. Ben là, c'est les Clippers qui ont gagné hier. Fait que là, ça va être Clippers contre les Suns.
Depuis que Nash est parti, là, dans le fond. Là, depuis que Nash est parti,
exactement. Puis ce qu'on voit de plus en plus, c'est de nouveaux visages, comme Trae Young avec Atlanta, puis Joel Embiid avec les Sixers, puis évidemment Kawhi Leonard qui s'est déplacé pour aller avec les Clippers. Sans lui, ils ont quand même traversé une autre nouvelle équipe, le Jazz de Utah, avec Donovan Mitchell. Nouveaux visages, nouvelles équipes, nouvelles confrontations, nouvelles rivalités. Et Jérémy, ce que ça fait, c'est ça convertit de nouveaux partisans. Ça les récompense pour leur loyauté pendant des années où ils attendaient patiemment. Puis c'est une bonne chose pour le sport de voir ça. D'ailleurs, c'est rafraîchissant de voir Canadiens contre Vegas.
C'est sûr.
La plus ancienne formation, la plus nouvelle formation.
C'est vrai.
Dans un moment... Non, mais c'est un bon match-up pour Gary Bettman et pour le hockey. Il y a une équipe canadienne qui est là qui engloutit le Canada au complet. On est tous submergés par la performance des Canadiens. Mais pendant ce temps-là, Vegas, c'est l'équipe des temps modernes. Fait que pour le côté télé pour NBC... On revient encore à la programmation. C'est du bon contenu, ça. Les gens aiment ça.
Ouais.
Fait que quand je vois les séries de la NBA se dérouler actuellement, on va avoir un nouveau champion. Les Lakers sont plus là.
Mm-hmm.
Et quel que ce soit, il va y avoir quelque chose de nouveau là-dedans. Et moi, j'aime beaucoup le fait que les ligues réussissent à créer des chances à des équipes nouvelles.
Mm-hmm.
Puis ça met en valeur le fait que tu peux gagner avec une bonne gestion, avec bonne organisation. Puis avec un repêchage où tu choisis de bons jeunes joueurs, tu peux rebâtir ton équipe rapidement. On le voit de nos yeux. Là.
On dit que les ligues sont aussi fortes que leur maillon le plus faible.
Oui.
Donc, c'est ça. Donc, il faut essayer de remonter les équipes
qui ont besoin.
Le plus de difficultés. Bon, du côté de l'Euro, là, je fais une petite parenthèse. L'Allemagne vient de marquer 2 buts coup sur coup.
Ouf.
Donc, vient de prendre les devants 2-1 face au Portugal. Un match endiablé, le 42e minute de jeu. Et en parlant justement du Portugal et de Ronaldo, qui a aussi marqué ce matin... Cristiano Ronaldo, il est allé d'un geste qui semblait peut-être anodin, mais il se présente en conférence de presse et là, il y a 2 bouteilles de coke sur la table et là, il décide que lui, les bouteilles de coke, il n'endosse pas ça. Il tasse les bouteilles de coke et là, attention, chute de la valeur marchande à la bourse de l'indice de Coca-Cola. Parle-nous un petit peu de cette histoire-là.
Ben moi, je pense d'abord qu'il faut mettre en valeur le fait qu'un gars comme Ronaldo, qui a 500 millions d'abonnés sur les médias sociaux, qui est probablement l'athlète le plus populaire au monde, qui joue pour une équipe nationale, qui sont champions défendants de l'Euro.
Ouais.
Il joue aussi pour la Juve en Italie. Il y a beaucoup, beaucoup de visibilité. Et tout ce que Ronaldo fait, ça influence les gens. Fait que d'abord, ça met en valeur le fait que tu as des influenceurs de sport comme ça, Jérémy, qui sont capables de faire bouger l'aiguille instantanément.
Ouais.
Il n'y en a pas eu des cinquantaines là, depuis l'histoire, mais entre Michael Jordan, puis Tiger Woods, puis LeBron James, puis Ronaldo, ces gars-là sont populaires en dehors du jeu, mais ils sont aussi extrêmement performants sur le terrain. On le voit, Ronaldo, un but aujourd'hui, 2 buts l'autre jour. Je veux dire, il joue encore à un âge de 36 ans, là, à un niveau exceptionnel.
Absolument.
Alors, quand lui décide que c'est pas ce qu'il veut, puis c'est pas quelque chose qui l'intéresse, puis il va pas endosser un produit quelconque, ben là, forcément, il y a une réaction. Puis, pour avoir géré des conférences de presse longtemps, il faut avoir beaucoup de doigté, de diligence. Parce que ces entreprises-là, comme Coke, paient beaucoup d'argent. On parle de dizaines et dizaines de millions de dollars à chaque euro. Ils sont avec l'euro depuis 30 ans.
Ouais.
C'est une entreprise qui supporte ces causes-là. Mais tout le monde sait bien que pour un athlète élite, de haut niveau.
Ben oui.
Consommer du Coca-Cola, manger du McDonald's, ces choses-là, c'est non. pas nécessairement le repas ou la boisson d'avant ou après match. Bon, ceci étant, faut reconnaître que McDonald's, Coca-Cola et plusieurs autres soutiennent le sport amateur, professionnel, les grands événements, mm-hmm. des Olympiques à la Coupe du Monde et à l'Euro depuis des décennies, Jérémy. Alors, à quelque part, eux aussi, il faut respecter pourquoi ils sont là.
Ils sont un petit peu redevables, c'est sûr.
Ben oui, puis le placement de produits, d'avoir le droit d'avoir ton produit sur la table de presse dans un scrum ou un point de presse, c'est quelque chose qu'ils ont acheté. Fait que Ronaldo, lui, il se dit, ben, moi, je le consomme pas. Il était probablement de mauvaise humeur ce jour-là, puis il a décidé d'un seul coup de balayer ça puis de sortir une bouteille d'eau. Ça a donné une mauvaise image pour lui et ça a affecté Coca-Cola puis la perception publique parce qu'il génère de l'influence. Mais ultimement, Coca-Cola, c'est une grosse machine, ils vont s'en remettre, c'est pas un problème. Ronaldo va falloir qu'il soit prudent dans ses gestes, mais à la fin, qui va lui dire de ne pas faire une chose ou une autre?
Non, c'est
alors,
ça.
Le gars de communication qui gère ça pour l'Euro, il est un peu coincé entre les deux. Coca-Cola aurait pu dire, prenez quelques-uns de nos autres produits, on dizaines.
Danone, c'est de l'eau, là. C'est eux autres, je pense, qui sont propriétaires de ça.
Dasani pour l'eau, Dasani. Minute Maid, t'as Powerade comme boisson énergique, si on veut, Jérémy. Il y a plein de choses.
Ben oui, c'est ça.
Alors, il y a eu quelqu'un qui a raté quelque chose, mais on peut pas non plus toujours anticiper, tu sais, la réaction impulsive d'une star. Puis Ronaldo, c'est une star.
Exact.
Alors, c'est simple. Mais à la fin, il y a eu un petit effet financier. Puis on l'a remarqué tout de suite. Mais comme j'ai dit, c'est des miettes là dans un désert. Là. Il n'y aura pas grands effets à long terme pour Coca-Cola. Puis Ronaldo va simplement falloir que lui comprenne que lorsque lui fait des choses comme ça, ça peut... Non, mais c'est parce qu'il y en a des commanditaires, Ronaldo. De Armani à Samsung, à Nike, il faut qu'il soit prudent lui aussi. Mais c'est vrai qu'il y a plus de largesse parce que c'est la star du monde entier.
Avoir su, on aurait pu faire un petit coup à la bourse en vendant peut-être nos actions, en tout cas. En short-time, comme ils disent, nos actions de Coca-Cola. Mais voilà, bon. Et c'est ça qui est ça. Ray Lalonde, merci beaucoup. On s'en reparle très bientôt.
Salut, Jérémy. Merci à toi.
Salut. Ray Lalonde qui nous parlait sport business. On s'arrête le temps d'une courte pause. Et là, c'est vrai. Au retour de ceci, Alex Agostino et le baseball.